Interview.
1 RDWA et c'est l'heure de l'interview avec au studio Spyros. Bonjour.
Bonjour.
Spyros, tu es cofondateur, un des cofondateurs donc de ce projet du Sindo, cette appropriation par des citoyens de cet ancien hôtel, avec aussi Erwan. Bonjour.
Bonjour.
Erwan, donc tu es membre de cette association et tu nous expliqueras aussi un peu ton implication avec d'autres sur ce projet. Alors ce projet, effectivement, c'est celui de racheter un hôtel désaffecté en centre-ville pour bâtir un projet d'intérêt général. Une idée qui vous est venue depuis combien de temps?
Alors, ça fait presque un an que l'idée est apparue. Elle est apparue dans la tête d'abord de Éric Bellevaux et Thomas Glatt, qui ont eu vent de la vente de ce bâtiment, qui était déjà fermé depuis un an et quelques. Et au moment de cette discussion avec les propriétaires, qui ont contacté la mairie il y a à peu près un an et demi, pour dire qu'ils voulaient vendre le bâtiment avec un attachement au territoire, donc ils voulaient voir à quoi il pourrait servir aussi, avant de se dire « je le vends au plus offrant sur le marché immobilier ». Et à partir de là, Éric et Thomas ont commencé à réfléchir à son devenir et à agréger un peu quelques personnes autour d'eux, dont Hélène et moi-même, et on a commencé à imaginer qu'est-ce que ça pourrait devenir.
Effectivement, l'imagination permet de proposer des alternatives à cette désaffection. Il y a celui du logement pour des raisons d'âge ou aussi de monoparentalité. Il y a aussi des activités commerciales qui seront situées au rez-de-chaussée et puis un espace partagé pour des activités sociales et culturelles. Et donc, est-ce que la structure du Sindo est-elle elle-même une association et qui pourra prétendre aussi à cette jouissance de ce lieu?
Alors, c'est peut-être important de le préciser, on a monté une association en effet au départ avec comme principe, c'est-à-dire qu'on était des personnes à s'engager bénévolement et qui n'avaient pas d'intérêt particulier à utiliser ce bâtiment. Donc la vraiment première réflexion, c'était c'est un bâtiment de plus de 1000 m² en plein centre-ville de Die que tout le monde connaît, il ne peut pas rester vide, quoi. C'est vraiment dommage. Donc comment on fait pour se le réapproprier et puis comment on fait pour qu'il réponde aux besoins du territoire et que tout le monde s'en saisisse parce que c'est un enjeu pour la vie de chacun qui habite à Die. Donc les exemples que tu as cités de destination, c'est ce qui est arrivé très vite. Il n'y a pas besoin de passer des heures et des heures de réflexion pour savoir à quoi peut servir un bâtiment. À Die, la tension elle est sur le logement, la difficulté à se loger dans des conditions dignes, il y a des loyers abordables. Il y a la question du vieillissement de la population et de l'autonomie. Donc ça, c'était sûr qu'on a un hôtel, on a des étages avec des chambres, des salles de bain. C'est adapté pour essayer de les transformer en logement. Et puis le rez-de-chaussée, on est en plein rue Camille Buffardel. Donc la question, c'est le dynamisme commercial, l'activité, des lieux où on continue de venir, de se croiser et qui participent à faire que cette rue soit agréable et ouverte à tous.
Mmh. Oui, c'est ça. Ça serait quand on parle d'activité commerciale, l'idée c'est pas de recréer des commerces, c'est de créer des endroits, donc principalement l'idée qui est sur la table c'est de créer des endroits mutualisés, que ce soit une cuisine mutualisée, que ce soit des salles, il y a une idée de salles de sport par exemple mutualisées, et en fait tous ces espaces-là vont participer à la dynamisation du centre-ville parce que ça va faire venir des gens qui vont venir... dans la salle de restauration, soit dans la salle de sport. Ça va recréer aussi un flux dans le centre-ville.
Cette mutualisation, notamment celle des cuisines, est-ce que vous avez pu visiter cet endroit? Et j'imagine que oui. Et est-ce qu'il y a justement un équipement pour pouvoir cuisiner?
Oui, on a passé pas mal de temps à le visiter. On a même ouvert les portes pour le faire visiter aussi aux citoyens qui voulaient... s'investir avec nous dans ce projet, c'est parti d'un principe assez simple. C'est-à-dire que si vous prenez ce bâtiment et que vous décidez de le rénover à neuf, une opération classique, vous êtes à des prix absolument exorbitants et vous avez une opération à 3-4 millions d'euros pour pouvoir rénover un bâtiment comme ça. Personne n'est en mesure de payer un tel prix et d'assumer un tel coût. Donc on s'est dit qu'il fallait faire différemment et ça passe par de la sobriété. Et la sobriété, c'est utiliser au mieux ce qui existe. On a un hôtel qui, certes, n'était plus aux normes à la fin de sa vie, avec des questions de désenfumage, des questions d'accessibilité PMR qui n'étaient pas respectées. Pour autant, il y a quand même un bâtiment qui est fonctionnel, qui a des équipements à l'intérieur, et notamment une cuisine qui est dans son jus, quoi. Si vous voyez les photos, il y a tout à nettoyer, il y a tout à récurer, mais il y a déjà des équipements qui peuvent fonctionner et qui pourraient permettre, d'installer des activités liées à l'alimentation dans ce rez-de-chaussée. Toutes ces réflexions, elles sont en cours, mais avant tout, comme je disais, nous, l'association, on n'a pas comme objectif de venir utiliser le bâtiment, on veut le mettre à disposition, à condition qu'on arrive à l'acheter, qu'on arrive à offrir ce cadre de possibilités. Et c'est notamment pour ça que Erwan a beaucoup participé à ce projet, sur la question de comment on mobilise les citoyens, comment on parle de ce projet, comment on fait en sorte que tout le monde se dise « il se passe quelque chose et j'ai envie d'aider ».
Oui, que les gens aient aussi une idée claire, en fait, de ce qui va se produire là-bas. Mon souci au tout début, c'était qu'il n'y ait pas de fantasme en tout genre qui soit nourri autour de ce projet. Les gens ne croient pas qu'on soit en train de... qu'il y ait un projet de Marc Avenue en plein centre de Die, que ça soit quelque chose de très clair pour tout le monde, quoi.
Est-ce que, justement, ce lieu est toujours visitable pour les personnes qui voudraient vous soutenir, de manière à peut-être donner une idée concrète de ce qu'est ce lieu et les destinations qu'on pourrait éventuellement y mettre ?
Alors, on va organiser une visite publique du bâtiment, on peut peut-être en parler, le 20 juin. De 10h à 14h, on va se mobiliser là, tous les bénévoles qui gravitent autour de ce projet pour permettre à tout un chacun de venir se rendre compte de quel est ce bâtiment, et puis de se projeter peut-être plus précisément dans qu'est-ce qui deviendra une fois qu'il aura été acheté, que les premiers projets auront eu lieu à l'intérieur.
Et là, peut-être... À remercier et puis à rappeler quand même une chose, c'est qu'on n'est pas encore propriétaire du bâtiment, non. Mais on est tombé quand même sur des propriétaires, comme je le disais, qui avaient un attachement au territoire et qui voulaient que leur bâtiment soit utile, qu'il serve à quelque chose, et donc qui ont été vraiment à l'écoute et séduits par notre projet, aussi par une personne que je nomme Mohamed, qui est quelqu'un qui travaille pour eux et qui est notre intermédiaire avec les propriétaires et qui a adhéré au projet tout de suite et qui a rendu possible et dans lequel il y a eu un climat de confiance qui a permis de monter tout ça. Donc on leur tire notre chapeau, quoi. D'avoir et merci beaucoup pour finalement cet effort qu'ils font, mais ce qui fait que nous on a les clés et qu'on organise en effet des visites qui sont cadrées, on y fait attention, etc., parce qu'on n'est pas encore chez nous. Ouais. Mais ça permet aux gens à la fois de se projeter, mais je trouve que aussi, et ce qui est une particularité de cet hôtel, c'est qu'il est vraiment dans son jus. On a l'impression qu'il s'est fermé hier. Vous avez encore des draps retournés sur les lits. Vous avez une brosse à dents qui traîne. Il y a des pantoufles. Il y a encore un verre avec un fond de Ricard sur le bar. Et donc, avant même de se projeter, c'est de se rendre compte de l'histoire de ce bâtiment et de sa vie. Et là, peut-être, Aaron, tu peux parler, mais tout ce qu'on a fait sur l'histoire avec Simone Girard pour essayer aussi d'ancrer, nous, ce qu'on veut faire dans une sorte de suite de ce qu'il a été.
De continuité, oui, tout à fait. Il y a eu un événement qui a été organisé avec Simone Girard, c'était le 30 mai dernier. On vous fera passer donc la captation sonore pour que vous puissiez éventuellement la diffuser. Donc Simone Girard, c'est la fille d'anciens propriétaires qui était donc des années 30 aux années 70, et elle est venue témoigner de qu'est-ce qu'était la vie au sein de cet hôtel quand elle était petite. C'était très, très émouvant, très touchant comme témoignage. Et on s'est rendu compte à cette occasion que c'était un bâtiment qui était vraiment empreint de valeurs sociales, de solidarité, d'entraide. C'était un bâtiment pilier, je crois, dans la vie sociale du Diwa. Voilà, elle nous a parlé, par exemple, d'un docteur, le docteur Abel, qui était là, qui a été pensionnaire dans cet hôtel, qui avait les gens appelaient pour prendre rendez-vous avec lui. Il y a tout un tas de témoignages dont on nous a fait part, qui étaient très touchants et qui allaient tous dans ce sens-là, quoi. Et elle a conclu d'ailleurs, elle a conclu entre autres en disant que ouais, le projet qui était mené par l'association là actuellement allait complètement dans le sens de ce qu'elle a pu vivre elle, dans les valeurs qui étaient portées, dans ce qu'elle a pu vivre elle dans sa petite jeunesse. Ouais.
Vous connaissez l'origine de ce nom, Saint-Domingue ?
Alors, il y a plusieurs légendes qui tournent autour de ça, et des légendes plus ou moins tristes. Il y aurait un lien, en fait, avec les enfants des premiers propriétaires, enfin, de propriétaires qui seraient allés et qui auraient envoyé leurs enfants à faire fortune à Saint-Domingue et dont ils n'auraient plus jamais eu de nouvelles. Et donc, ils ont baptisé cet hôtel en mémoire de cette île où seraient leurs enfants.
Alors, la première étape, c'est l'acquisition de ce lieu. Pour cela, vous avez constitué une association qui permet donc, par un site, on peut le nommer peut-être ce site pour...
Sur saindo.org, saindo.org, vous avez toutes les informations en effet.
Voilà, et qui nécessite de regrouper 300 000 euros pour cette phase. La première étant celle de 250 000 euros pour le lieu même. Et puis ensuite, les frais de notaire et aussi les services de faisabilité, d'accompagnement. Enfin, il y en a pour un total d'environ 300 000 euros. Et est-ce que vous avez établi un calendrier pour cette procédure ?
Eh ben alors, la levée de fonds pour la première étape, donc de 300 000 euros, elle est en cours, elle a plutôt très bien démarré. Là, actuellement, on en est à 165 000 euros à peu près réunis, un peu plus de 165 000 euros. Il y a pas loin de 190 donateurs, enfin de gens qui ont abondé à ce fonds-là. La signature du compromis, elle va intervenir à la fin du mois de juin, début du mois de juillet. Et si la levée de fonds a été bouclée d'ici là, la vente se fera très vite dans la foulée. Sinon, les délais légaux, je crois que c'est 2-3 mois pour la signature de la vente définitive qui, du coup, interviendrait fin septembre, début octobre.
Alors, pour cela, il y a une émission de 3000 parts, 200 euros chacune. C'est accessible pour la plupart du public ou alors est-ce qu'il y a aussi peut-être des sommes moindres ?
Alors, c'est une bonne question. Il y a pas mal passé de temps. Il y a plusieurs façons de contribuer et d'aider le projet. La première, c'est d'adhérer à l'association. Donc, c'est 20 euros l'adhésion à l'association qui permet de fonctionner comme toutes les assos. Il y a la possibilité de faire des dons, défiscalisés ou non, et il y a la possibilité de prendre des parts sociales. Ça, c'est pour la contribution financière. Les parts sociales, elles sont à 100 euros, en effet, et elles ne sont pas rémunérées. Donc, c'est comme si vous faisiez un prêt à taux zéro, grosso modo, mais vous devenez propriétaire avec nous. Vous devenez sociétaire de la future SIC. L'association va se transformer en société coopérative d'intérêt collectif. Et vous serez partie prenante de toutes les décisions. Ce ticket d'entrée à 100 euros, il est un peu élevé, mais on est en train de parler de l'achat d'un bâtiment à 300 000 euros, avec des travaux derrière, d'autres phases. C'est quand même un projet qui va être tout mis bout à bout à plus d'un million. Ça sera financé par des subventions, des dons, etc. Mais donc, du coup, il nous fallait aussi une sorte de fonctionnement un peu simplifié avec 100 euros. Pour autant, pour éviter que ça exclue des gens de ce système, on a mis en place des parts suspendues. Donc ce qui permet, on en a, il me semble, 4 ou 5 encore aujourd'hui, quand des gens achètent des parts, ils peuvent décider d'en suspendre à la manière des cafés suspendus dans les parts. C'est-à-dire que si quelqu'un achète 5 parts, il dit, il y en a une que je lègue, que je donne à quelqu'un qui souhaiterait s'investir, mais qui n'a pas les moyens de mettre ses 100 euros. Donc on communique là-dessus. Aujourd'hui, on a 5 parts et on n'a eu qu'une demande d'ailleurs. Donc s'il y a des personnes qui veulent s'impliquer, il y a des parts aujourd'hui qu'on peut donner. Donc c'est de l'argent qu'ils récupèrent et ça leur permet de rentrer dans le projet gratuitement. Ensuite, il y a quand même aussi une manière de s'impliquer à travers nous aider, soutenir, être bénévole. On a organisé pas mal de commissions, de choses comme ça pour que tout le monde puisse participer à son envie, à sa mesure. Que ça va de afficher des affiches, tenir des permanences, accompagner les gens pour visiter le bâtiment, en parler, ne serait-ce que partager sur Internet. Mais en tout cas, on ouvre la porte et si l'argent est vraiment un souci pour vous, on essaye de trouver des solutions. Voilà. On ne veut pas que ce soit une barrière.
Alors, autour de ce projet, de cette acquisition même, il y a plusieurs impératifs, hein, un montage juridique, la coordination du projet et puis ensuite la mise en sécurité et premiers aménagements, ça c'est la phase 2, hein, celle de la restructuration. Il y a donc un chemin tracé pour cette procédure qui est incontournable, j'imagine.
Oui, il y a un chemin tracé, c'est la bonne expression, même s'il y a encore pas mal de virages qu'on n'a pas encore imaginés, mais on voit en tout cas le cap, on va dire. Et pour faire très simple, le cap, c'est d'abord d'acquérir le bâtiment. Il y a eu un accord avec les propriétaires qui ont fait encore une fois un gros effort sur le prix d'achat, mais en échange, on demandait à ce qu'on aille vite, ce qui est entendable. Du coup, le délai d'achat ne permet pas de ficeler un projet de A à Z et de dire on a tous les futurs occupants, toutes les subventions, tous les modèles économiques. Donc on part d'une façon qui se fait de plus en plus en France, ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire, c'est-à-dire qu'on achète le bâtiment et qu'ensuite on se donne le temps pour construire le projet. Et ce temps, c'est le temps normal de concerter, de discuter, de monter les projets avec les associations parties prenantes. C'est encore ouvert, on a des pistes, mais voilà, il y a encore possibilité de réfléchir vraiment largement et en concertation. Et pendant qu'on réfléchit à ce projet, à son montage, il va probablement se passer un an ou deux. Et ben pendant un an ou deux, on est propriétaire du bâtiment, donc autant le faire vivre. Et donc pendant cette année ou ces deux années, après une mise aux sécurités, parce qu'on ne veut pas mettre les gens dans des situations de danger, mais on peut ouvrir ce bâtiment de manière temporaire pour répondre à des besoins, que ce soit, je sais pas, une cantine populaire de temps en temps, que ce soit un festival, une exposition, des salles de réunion, enfin, peu importe, voire même, pourquoi pas, de l'hébergement d'urgence, parce qu'il y a quand même des chambres qui sont finalement en état et elles pourraient accueillir des personnes dans le besoin. Donc on aura deux ans où l'utilisation est assez libre, elle sera cadrée par des bornes de responsabilité, de temporalité, mais où qui a envie de venir, voire même de tester une activité. Vous avez envie de, je sais pas, de créer un brunch le dimanche et vous voulez vous lancer, on peut vous mettre l'espace à disposition pendant quelques dimanches et puis vous verrez si ça marche et au final vous deviendrez peut-être un utilisateur final du lieu. Voilà, et ensuite... Une fois que le projet est bouclé sur l'aspect pérenne, sur l'aspect à long terme, eh ben le bâtiment probablement va refermer pour une phase de travaux lourds, ou alors tout fermé ou en partie, il y a plein de détails qu'on ne maîtrise pas, mais ensuite il y aura une phase de travaux lourds qui fera qu'ensuite le bâtiment sera inauguré dans sa version définitive, probablement d'ici 2-3 ans.
Moi, j'ajouterais une chose. Je trouve que cette manière de fonctionner permet vraiment de coller aux besoins d'un territoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de venir avec un projet tout ficelé qui peut présenter le risque d'être un projet complètement hors sol et pas répondre à des besoins qu'on ne peut pas identifier parce qu'ils ne sont soit pas énoncés, soit pas vraiment visibles. Là, l'idée, c'est à partir du moment où on met un bâtiment à disposition et qu'on ouvre cette possibilité d'expérimentation, il y a des besoins qui vont se faire ressentir et qui vont trouver une réponse dans ce bâtiment. Et donc, ça va vraiment, ça nous assure, ça va assurer que ce projet-là colle aux besoins du territoire du Diois.
Donc, un projet évolutif. C'est constitué donc une équipe au sein de ce conseil d'administration de l'association. Chacune s'attribue une fonction précise. Il y a une coordination certainement aussi à établir. Comment s'est structurée cette association, ce bureau ?
Et là, on a les mains dans le cambouis, hein. On est en train de se construire en avançant, mais évidemment, il y a un CA qui est composé de 5 personnes, dont les membres fondateurs, donc je parlais d'Éric Bellevaux, d'Hélène Legardeur, de Thomas Glad, de moi-même et de Jean-Baptiste Boyer. Et ce CA, il a très vite été épaulé parce qu'on a obtenu des subventions par quelques prestataires. On a obtenu des subventions de la ville et de la communauté de communes qui ont été les premiers à croire au projet. Ça nous a permis de débloquer des subventions d'Europe Leader. Et ces premiers sous nous ont permis aussi de structurer un petit peu de l'accompagnement, que ce soit de l'accompagnement juridique, que ce soit de l'accompagnement architectural, que ce soit de l'accompagnement d'Erwan pour mobiliser et animer le territoire sur cette question-là. Et donc ça a créé une sorte de comité de pilotage où on a un peu une petite dizaine de personnes quand on met bout à bout ces gens-là. Et très vite, on n'était pas assez, parce que c'est un gros projet, il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, on a structuré des bénévoles qui sont très vite impliqués. Et ça, c'est peut-être ça la première leçon qui nous a assez étonné, et c'était un pari, c'est est-ce que finalement ça va prendre ? C'était ça la première question, parce que nous, quand on a dit on y va, on tente, on a un bâtiment qui nous paraît emblématique et qu'il faut faire quelque chose, et en même temps, on était quatre dans une pièce, et on s'est dit, bah oui, mais nous, on n'est que quatre avec nos petits bras, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que les gens vont s'en saisir ? Et tout de suite, ça a marché. Tout de suite, des gens se sont présentés, je veux être bénévole, je veux aider, je veux bien tenir des permanents, je veux réfléchir au graphisme, je veux réfléchir à la communication, je vous aide pour le site internet. Donc on s'est dit, bah ça y est, en fait, s'il y a de l'élan citoyen, on y va. Et ça marche plutôt bien, là, Erwan peut-être a structuré un peu des commissions justement de bénévoles, des groupes de travail, et on avance un peu comme ça.
Oui, on construit en avançant. Il y a quelque chose qui se passe un peu comme ça, quoi.
On peut citer l'exemple, par exemple, du travail sur la mémoire de ce lieu à travers un clip vidéo qui est fait par Raphaël, qui a fait deux clips un peu connus sur le journal du Diwa et sur le cinéma du Pestel. Et donc, tout de suite, bah, y a eu des bonnes volontés qui ont dit, bah, en fait, moi, j'ai envie de m'investir là-dedans. Nous, on ne l'avait pas identifié au début, mais des gens se sont motivés. Ça, et c'est en train de se faire, et ça va être un truc assez incroyable. Il y a eu un tournage épique.
C'était épique, oui, effectivement, c'est le mot. Non, c'était très chouette.
Donc, il y a de la place pour s'investir, c'est ça qu'il faut retenir.
Complètement, oui.
Donc, la deuxième phase, c'est celle des travaux, avec cette mise en sécurité, et puis reprise des désordres structurels. Alors, qu'est-ce qu'on peut signifier avec ce terme ?
On peut signifier, donc ça c'est, on est toujours dans la phase d'expérimentation. Et la phase d'expérimentation, étant donné que ce n'est pas sa destination finale, on a le droit de déroger à certaines règles. On n'est pas obligé de respecter la totalité des règles liées à des bâtiments de cette nature. Par contre, il y a des règles qu'on ne peut pas déroger, c'est que les gens sont en sécurité. S'il y a un truc qui leur tombe sur la tête, on est responsable. Donc il y a une sorte de première intervention qui est en train d'être calée avec l'agence d'architecture qui s'appelle Tout va bien, avec Camille et Florentin qui travaillent ici et qui sont missionnés sur ce dossier, et qui sont en train d'auditer le bâtiment pour dire où est-ce qu'il y a vraiment des risques. Aujourd'hui, on a un bâtiment qui est quand même en mauvais état, mais qui n'est pas en état de péril. Donc, il faut intervenir. On a quelques fuites sur les toitures terrasses. On a quelques endroits dans la charpente où il faudra faire des reprises de toiture. On a une piscine sur le toit dont il faut s'assurer sur une toiture terrasse, qui est un peu quand même un truc incroyable.
S'assurer qu'elle reste sur le toit.
Voilà.
Actuellement, elle est vide ?
Non, elle est en eau encore.
Elle est en marécage, on dirait.
Il y a des grenouilles. Hein.
Non. Des moustiques.
Des moustiques.
Oui, des riverains. On va traiter ce problème-là de moustiques parce que.
Ouais, c'est une mare, là. Aujourd'hui, c'est une mare. Mais en tout cas, il y a ce. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est. Les désordres structurels, il y avait un risque à force d'infiltration ou de ruissellement que ça lave les maçonneries, les choses comme ça. Donc là, on regarde pour s'en assurer. Et puis, les autres désordres de mise en sécurité, bah, c'est être sûr qu'on respecte les règles de risque incendie, que l'électricité, personne ne va prendre un coup de jus quand il branche quelque chose. Mais ça ne nous fait pas trop peur, en tout cas dans la phase d'expérimentation. Par contre, ensuite, la remise au plat de ce bâtiment pour son usage final de logement et d'activité, là, ça sera des travaux plus conséquents, parce que là, il faudra recloisonner, il faudra rendre accessible, il faudra rénover thermiquement. On est quand même sur une passoire thermique qui consommait des litres et des litres de fuel. Donc, il faut travailler là-dessus, et puis sur son confort, quoi, en général.
Donc, à l'heure actuelle, il y a cette acquisition, plus la mise en conformité. Ça va prendre un temps. On ne peut pas déterminer actuellement encore le processus précisément pour la suite. Hein. Il pourrait y avoir des surprises. Je ne pense pas quand même. D'ailleurs, cette piscine repose sur quelle structure ? Est-ce qu'elle a sa structure propre en support ou elle s'est bâtie sur le bâti ?
Elle est sur le bâti. Elle est sur les dernières toitures terrasses. Elle n'est pas très grande. Hein. Je crois qu'elle doit faire 6 mètres par 3, ce qui est déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal. Peut-être un peu moins 5 sur 2 ou quelque chose comme ça. C'est peut-être un projet de financement. On va la transformer en pool party avec des cocktails à 50 euros pour si on avait des riches touristes. Non, la piscine, c'est anecdotique. On va voir ce qu'on peut faire. Mais par exemple, la piscine, aujourd'hui, on sait qu'il y a des kinés avec qui on a discuté qui se disent peut-être que c'est un équipement qu'on pourrait utiliser dans le cadre de la rééducation de leurs patients. Il y a encore plein d'interrogations. C'est pas du tout sûr que ça voit le jour, mais on se dit s'il y a un équipement comme ça, peut-être voir à quoi ça peut servir avant de se dire on l'enlève si vraiment c'est trop compliqué. Mais c'est toute cette logique qui prend du temps et qui doit répondre, comme tu disais, Erwan, aux besoins du territoire. C'est en prenant le temps, en en parlant, les gens viennent voir et disent « Ah bah tiens, ça me donne une idée, je peux marcher. » Voilà. En tout cas, sur le calendrier, même s'il y a plein de choses qui ne restent variables ou inconnues, on espère quand même signer fin septembre. Et ça veut dire que dès cet automne, on pourra commencer à organiser des événements, on pourra commencer à ouvrir les portes, on pourra célébrer, si on a tous compte, je ne mets même pas si, parce que maintenant je suis sûr qu'on va y arriver, mais on pourra tous célébrer qu'on a réussi à acheter un bâtiment collectivement pour le sortir de la spéculation immobilière et pour éviter qu'il reste une friche pendant des années au sein d'une rue principale. Mmh. Donc on pourra déjà organiser une petite fête sympa, une brocante avec tout ce qu'il y a dedans. Enfin, il y a plein de choses à imaginer pour le faire vivre dès l'automne. Mmh. Et puis là... on sait qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées et envie de faire des choses.
À partir du moment où le lieu sera là, c'est sûr que les idées vont arriver, ouais, c'est clair. Il y en a déjà pas mal sur la table. Et je rebondis sur l'idée de la piscine où tu disais, voilà, il est kiné. Ça me fait penser, effectivement, il y a beaucoup de ce qu'on voit arriver, c'est beaucoup de projets qui pourraient être travaillés en synergie. Voilà, au sein du bâtiment, notamment voilà, la destination pour des habitations, enfin des logements pour les seniors autonomes, la salle de sport, on peut très bien, très facilement imaginer que les rendez-vous kinés puissent être pris au sein de la salle de sport. La cuisine mutualisée pourrait très bien fournir des repas pour les locataires des étages, etc. Donc il y a quelque chose aussi de, voilà, très synergique qui émane un peu de ce projet et qui, je trouve, le rend encore plus enthousiasmant.
Justement, cet engouement se propage au-delà de la ville. Est-ce que des Diwa aussi se prêtent à ce projet ?
Au-delà du Diwa ?
De Di.
Au-delà de Di, alors sur le territoire du Diwa, oui, clairement. Maintenant, il se propage à la hauteur de là où on a réussi à communiquer. C'est justement un des projets là, à très court terme, c'est d'arriver à porter un petit peu la voix de ce projet au-delà du Diwa, à commencer par Saillant, Cray, enfin la vallée de la Drôme, quoi, en fait, et le Haut-Diwa. Donc on va essayer de travailler là-dessus, essayer de communiquer un peu plus largement.
D'ailleurs, ce type de projet existe aussi à Dieulefi ou à Vercheny. Ça vous a mis la puce à l'oreille. Et donc, il y a aussi ces relations de conseils, peut-être, pour mettre en place ce projet.
Ah ben, très clairement, oui. Le projet, notamment à Dieulefi, le projet de COP plus 7, ben, d'une part, c'est des projets qui nous amène un moteur essentiel dans le fait de mener à bien un projet comme celui-ci, c'est l'espoir que de voir un lieu comme ça qui a été acquis par des citoyens, ça fonctionne, ça marche en fait. Voilà, c'est juste de dire, on ne se dirige pas vers quelque chose de complètement inconnu. En fait, des lieux comme celui-ci, il en existe plein en France qui ont eu lieu qui sont déjà en route et qui fonctionnent très bien, quoi.
Et Adi est peut-être aussi à commencer par l'Avant-Poste, qui est un des projets citoyens qui a ouvert, qui a fonctionné, qui abrite du logement très accessible, des activités et du coworking. Ça sécurise en fait, ça met en lien, il y a plein de choses qui se passent que ce soit dans le Diwa ou en France, et on a l'impression que c'est le moment en ce moment que les citoyens se disent allez, en fait on peut faire des choses, on peut faire des choses entre nous-mêmes, entre nous, on n'est pas obligé d'avoir de gagner des instances politiques, on n'est pas obligé de se laisser abattre par la morosité ambiante, on peut s'organiser, prendre les choses en main, on n'est pas obligé de subir le marché immobilier qui asphyxie beaucoup de gens, on n'est pas obligé de subir l'inertie de beaucoup d'administrations. Et on essaye, on y va, et ça, c'était quand même un enseignement et une surprise assez incroyable de voir vraiment cet engouement, on n'arrête pas de le répéter, mais l'enthousiasme des gens pour s'investir dans ce projet et la générosité des gens. On en a un petit peu parlé, mais le premier palier, c'est 300 000 euros, on est à 165 000 euros. C'est quand même des sommes, on parlait de 100 euros l'appart, c'est pas négligeable, et on voit des gens tous les jours qui viennent, et c'est à la hauteur de leurs possibilités, mais c'est sans l'once d'une retenue et d'une hésitation. Enfin, bah, moi j'ai envie d'y participer, je mets 100 euros, ou inversement j'ai 5000 euros sur mon livret A qui dort, bah, en fait je suis trop content qu'il serve à ce projet. C'est touchant, et ça nous met face à cet engouement qui nous nourrit, mais ça nous met aussi une responsabilité aussi de se dire on va le faire avec vous et on doit se mettre tous les moyens pour essayer et ne pas décevoir aussi là-dessus.
À la suite de cette acquisition, il y aura une transformation de l'association donc, en société coopérative d'intérêt collectif. Là, vous y travaillez déjà actuellement. Est-ce qu'il y a, au-delà de cette acquisition, des dates déjà établies ?
Non, le calendrier, il n'est pas établi. C'est ce qu'on a toujours communiqué, c'est qu'on était une association de préfiguration qui se transformait en société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. Pour ça, on est accompagné par Marie-Michel et puis par un peu Village Vivant et un peu l'URSCOP et un peu Oasis. Enfin, on a plusieurs personnes qui nous accompagnent. On discute tous ensemble pour essayer de trouver le modèle juridique le plus juste qui réponde à l'objectif et qui soit aussi le plus citoyen, le modèle de la coopération, de l'économie sociale et solidaire. Garantie par exemple, enfin j'imagine que vous le savez, mais garantie par exemple que vous êtes sociétaire, que vous avez une voix, que vous ayez mis 100 euros ou 100 000 euros. Donc votre voix démocratique ne dépend pas de votre capital, ce qui est quelque chose qui est important pour nous. Donc aujourd'hui, la SIC probablement va se transformer à peu près au même moment que l'acquisition, en courant d'automne, et toutes les personnes qui ont déjà participé ou contribué en tant que membres de l'association auront leur mot à dire lors d'une assemblée générale et vont participer à la réflexion et on expliquera toutes les différentes possibilités et vers quoi on ira. L'idée de la SIC, de toute façon, c'est de porter le bâtiment. Mais c'est aussi de se dire que petit à petit, cette structure ne doit pas trop avoir de droit de regard sur l'usage. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de dissocier la propriété de l'usage pour éviter les dérives, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans la SIC. Dans 10 ans, on ne sait pas qui ça peut être. Et si c'est quelqu'un qui dit, moi, je veux plus de personnes âgées, ou moi, je veux telle garantie pour acheter pour mon loyer, je veux tel revenu, je veux pas de personnes sans papier, je veux pas de personnes noires, ou racisé, on connaît, il y a un risque de dérive. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que cette structure, elle soit concentrée sur le bâtiment, mais qu'ensuite l'usage soit à la main de ceux qui occupent le bâtiment, l'utilisent, et qu'ils n'aient pas cette épée de Damoclès en permanence d'un propriétaire qui pourrait abuser de ce pouvoir. Après, il y a plein de propriétaires qui ne font pas. Hein, c'est pas
un des garde-fous aussi par rapport à tout ça, c'est il ne faut pas quitter les yeux que ça sera un projet donc, qui est collectif et qui demeurera. Il y a des décisions qui, effectivement, pourraient être prises si c'était une poignée de gens qui étaient propriétaires. Mais à partir du moment où il y a 50 ou 100 personnes, forcément, avec des processus très clairs de décision, je doute que des décisions aussi radicales puissent être prises à ce moment-là.
Oui, la SIC, c'est une formule plutôt contraignante. Hein. Il suffit d'une voix contre pour bloquer la situation, si j'ai bien compris.
Alors moi, je ne suis pas un expert du tout dans le schéma de gouvernance des SIC, mais j'imagine que ça doit pouvoir se rapprocher peut-être de ce schéma de gouvernance d'une SCI. Il y a des chartes après qui peuvent régir les modèles de décisionnels et ça, c'est les sociétaires de la SIC qui la rédigent. On ne va pas répondre à un cahier des charges qui est préétabli. Ça va être à nous tous, sociétaires, d'écrire ça, quoi.
Et oui, ça fonctionne avec des collèges, avec des votes, avec des commissions. Il y a des pondérations et comme le dit Rouen, on va travailler tout ça ensemble pour que ce soit le plus juste.
En attendant, il y a chaque jeudi, je crois, un moyen de vous rencontrer devant l'hôtel.
Devant l'hôtel, oui, tout à fait, à 18h. Chaque jeudi, on fait un apéro info. Alors, c'est devant le bar du Glandas, qui est même s'il est actuellement en travaux. Et d'ailleurs, je tiens à saluer les anciens propriétaires du Glandas qui nous ont accueillis sur les premiers apéros et qui ont été adorables et qui vraiment nous ont vraiment soutenus. Enfin, c'était super de les rencontrer à cette occasion. Donc, merci à eux. Donc, chaque jeudi à 18h, on tient un petit apéro info. Donc, viens qui veut. Nous, on se débrouille pour qu'il y ait au moins un membre de l'association qui soit là et qui puisse répondre aux questions. Ça va de vraiment des questions purement pratiques sur de quoi il en retourne à des choses un peu plus techniques pour les personnes qui souhaitent faire des dons mais qui sont pas très à l'aise avec l'outil informatique ou qui, actuellement, par exemple, si vous souhaitez participer financièrement à ce projet, il faut aller sur le site internet, donc Sindo.org, SINDO. Et du coup, ça se passe par carte bleue, le financement. Enfin, si vous voulez voilà, faire un, que ce soit un don, ou que ce soit un apport associatif ou une adhésion, ça se passe par carte bleue. Ceux qui ne souhaitent pas faire ça, qui veulent plutôt utiliser le liquide, le chèque ou le virement, c'est plus simple peut-être parfois de se rencontrer le jeudi soir ou sur les permanences des marchés pour passer par ces moyens-là.
Vous indiquez donc 1000 mètres carrés habitables. Est-ce que cela signifie qu'il y a aussi des mètres carrés pour d'autres utilisations?
Alors oui, quand on dit 1000 mètres carrés habitables, c'est pour se rendre compte que c'est un bâtiment important, énorme. Il y a quand même de la place dans ce bâtiment. Et habitable, c'est des normes de calcul parce qu'après, il y a des garages, il y a un porche, il y a un patio, il y a des toitures terrasses, il y a des caves qui ne rentrent pas dedans. Donc ils peuvent aussi trouver des usages et on espère trouver des usages avec ces endroits. Et ouais, en fait, plus de 1000 mètres carrés en plein centre-ville de Die, on parle de finalement quelque chose comme 5, 6, 7, 8 logements qui seraient à destination des personnes seniors ou des personnes, on a pointé plutôt vers les familles monoparentales, mais en tout cas accessibles à des personnes qui ont des difficultés à se loger. Il y aurait de l'hébergement pour des personnes exilées sans papier à travers la trame et on a l'espoir aussi de monter une petite auberge de jeunesse. Probablement un petit format, 10-15 lits, il y en a quelques-unes qui s'ouvrent dans la vallée et qui fonctionnent sur ce modèle, qui peut servir donc aux touristes évidemment, mais aussi potentiellement un peu aux saisonniers, aux personnes de passage, etc., aux jeunes travailleurs. Donc ça, ça serait dans les étages, donc vous voyez que déjà ça fait déjà pas mal de choses pour un bâtiment, et le rez-de-chaussée qui fait plutôt dans les 300-350 mètres carrés, avec en effet des espaces extérieurs, porches, courettes, etc., là, autour d'une cuisine centrale, il y a pas mal de lieux, de salles qui pourraient être ouvertes à la fois sur la rue Buffardel et on a l'espoir de pouvoir aussi l'ouvrir vers la place Jules Plan et qui permettrait aussi d'investir cette place qui finalement est peu utilisée ou sous-utilisée, qui a une super orientation. Donc on se dit que si le Saint-Dô peut se retrouver avec une terrasse côté Jules Plan, ça serait assez incroyable. Ça fait beaucoup d'espace et beaucoup de possibilités. C'est pour ça qu'on ouvre aussi les portes du Saint-Domingue, mais de la réflexion, en disant venez réfléchir avec nous à comment on peut mutualiser ces espaces, comment on peut travailler, comment on peut le faire en bonne intelligence avec les commerçants. Erwan a passé beaucoup de temps à discuter, à rencontrer, à expliquer le projet aux commerçants. Premièrement, parce qu'ils sont les premiers concernés, c'est les voisins. Et deuxièmement, pour voir quels besoins ils avaient, comment ça pourrait s'articuler avec eux. Et ça, Erwan, qui passe un temps fou là-dessus, c'est vraiment important, c'est de se dire comment je vais à la rencontre de tout le monde pour pas que ce soit un projet clivant, pour pas que ce soit un projet fait que pour quelques-uns. Et donc, on a rencontré tous les commerçants, il est en train de commencer à rencontrer les artisans, les entreprises, voilà, pour faire en sorte que ça dépasse un cercle d'initiés qui savent... qui ont envie de faire des foncières citoyennes ou des SIC, mais que ça touche tout le monde.
L'intérêt général de ce projet, c'est qu'il soit un lieu vivant, en tout cas.
Tout à fait, et fédérateur. Ouais. Un lieu où chacun puisse se retrouver, qu'il ne soit pas connoté sur telle ou telle frange de la population, mais que ce soit chacun qui puisse s'y retrouver et amener ce qu'il a envie d'y amener, quoi. Tout à l'heure, tu disais 5, 6, 7, le 5. Quand j'en parle, je dis plutôt 10. En fait, c'est au niveau des logements. Je dirais que schématiquement, ce dont on est sûr, c'est que c'est, mettons que ça fasse 1000 mètres carrés, un petit peu. Voilà, ça fait. Il y a deux étages qui vont être à destination de logement. Et c'est vrai que c'est difficile de définir exactement la quantité de logements qui va pouvoir être produit, parce qu'on ne sait pas exactement quelle typologie de logement il va falloir produire. Est-ce que ça va être du T1? Est-ce que ça va être des chambres avec un salon et une cuisine mutualisée dans les étages où les gens pourront aussi se rencontrer? Chaque sujet, ça peut être un mix de tout ça. Voilà, c'est vrai que si on part du principe qu'il y a à peu près 600 mètres carrés qui seront dédiés au logement, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être décidées voilà, et qui seront à nouveau décidées collectivement. La programmation se fera pour coller au plus près des besoins du territoire.
Donc, pour découvrir ce lieu, proposition d'ouverture le 20 juin de 10h à 14h, c'est un samedi, donc jour de marché. Et ça permettra aussi pour les personnes qui ignorent ce lieu de le découvrir et peut-être d'amener à rêver.
Complètement, oui. Ça, c'est tout à fait bien dit.
Sur ce, eh bien, je vous remercie tous deux, Spiro et Erwan, d'être venus sur Air du Bois pour nous parler donc de ce projet associatif pour l'acquisition du Saint-Domingue. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci Yves.
Merci.
Bonne fin de journée à toi.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. La 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 la